Bonsoir à tous, chers amis HDRiens et HDRiennes. On se retrouve ce soir comme d'habitude, et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour le Blabla Mix. Il est 17h et comme d'habitude, on est en excellente compagnie. On va se faire une super petite émission avec de l'agenda qu'on vous a préparé. J'ai ça sous le coude tranquillement. On va aussi retrouver une petite interview que Ousmane nous a préparée au centre Malraux, qui présente actuellement le Moulin à Ouïr, une drôle de petite machine difficile à décrire qui nous sera décrite par son maître d'œuvre tout à l'heure, donc on se retrouve ça. Ensuite, on va bien sûr retrouver la chronique préférée des végétariens et des pacifistes, la Minute Histoire de Mansour, qui ce soir va nous parler de Jack the Ripper, Jack l'Éventreur, le légendaire. Bonsoir Mansour.
Bonsoir.
Voilà, donc Mansour qui a été faire un tour à Whitechapel, non?
Voilà, un petit peu par là-bas.
Très bien. Et donc vers 17h30, nous avons retrouvé notre invité que je vois en face de moi actuellement, monsieur Jean-Luc Varin, qui vient nous parler de La Vache Rebelle et qui lance un tremplin actuellement pour les jeunes artistes de l'agglomération de Rouen. Bonsoir monsieur Varin.
Bonsoir.
Voilà, donc bah bonsoir chers auditeurs. Je vous propose, histoire de se mettre en branle, de s'écouter un petit morceau de musique. Et pour commencer, on va se mettre bien en s'écoutant un petit Tupac, You Can See Me. Pairs of a million pairs of eyes looking hard but won't realize that they will never see the pea. You Can See Me, toujours du bon son sur Radio HDR.
Le Blabla Mix, 99.1 et 102.4 FM.
Et on retrouve bien sûr maintenant l'agenda. Et comme cette semaine, mesdames et messieurs, nous sommes orphelins de stagiaires, on a rappelé un très grand stagiaire. Vous l'entendez, vous reconnaissez son rire dans le Blabla Mix. Ousmane, qui nous a préparé un petit agenda, Ousmane.
Un petit agenda, ouais, un tout petit, qui se passe juste à côté, à la salle où je vais. Donc samedi 4 mai à 15h30 et après 19h, donc il y aura deux sessions. Donc il y aura le projet, comment dire ça encore, donc un projet participatif donc qui se nomme Perception. Donc voilà, c'est construit pour les habitants et aussi pour les habitants et aussi les jeunes de Déo de Rouen d'à partir de 8 ans à 17 ans. Donc voilà, c'est des cours de danse hip-hop et aussi de poésie et aussi un peu de rêve, voilà. Donc voilà, c'est pour initier aux habitants à fréquenter ces lieux culturels et aussi des jeunes aussi donc dans la pratique des arts. Monsieur Damien, il suit pas.
Monsieur.
Donc voilà.
Monsieur.
Et pourquoi ils reconduisent ça? Parce que l'année dernière, ils avaient d'abord fait un projet qui s'appelait Being Yourself, et donc voilà, qui avait eu un succès ici. Les habitants ont vraiment aimé. Et du coup, donc cette année, ils le reconduisent. Donc voilà, pour les jeunes et aussi pour les habitants, c'est pour animer ça. Donc ça se passe samedi 4 mai, donc 15h30, allez assister. Pour ceux qui ne pourront pas, donc voilà, à 19h, il y en a encore. Donc ça se passe à la salle du Jouvet. Je précise, c'est sur réservation parce qu'il y a déjà du monde. Donc voilà, pour être sûr de sa place, donc appelez directement Marina Nativelle. Donc voilà, au 02 35 60 39 49 02 35 60 39 49. Voilà, je pense que j'ai tout dit.
Et monsieur Ousmane croit que je ne suis pas, parce que moi-même je vous prépare de l'agenda pour revenir à mes premiers amours, mes chers auditeurs. Puisque ce dimanche 28 avril, on vous en parlera plus en profondeur demain, mais il y a rendez-vous au jardin avec d'abord, alors bien sûr c'est au Square Mauroy, parce que c'est bien que je vous parle du rendez-vous jardin, mais je vous dis pas dans quel jardin. Donc au Square Mauroy, dimanche 28 avril, avec la journée des peintres, un accueil à 10h dans le square autour d'un café croissant. Et après chacun ira peindre avec son chevalet. Et parallèlement, de 14h à 16h30, il y aura un atelier peinture pour les enfants et ou les parents, avec le thème des fleurs et des plantes. Ce sera animé par Monique Deram. À 16h30, il y aura la présentation de toutes les œuvres des peintres, voilà, qui pourront être proposées à la vente, et le jury remettra quelques prix pour deux catégories retenues. L'une sera peinture acrylique, aquarelle huile, et l'autre dessin pastel. Et à 11h, il y aura une conférence à la rencontre des belles mauvaises herbes des champs, proposée par Michel Joly, donc un botaniste. À midi, il y aura un pique-nique tous ensemble dans le square, et il y aura les plantations dans les jardinières toute la journée. Et bien sûr, cette journée, et ça ne gâche rien, se termine par un pot, mesdames et messieurs. On aime bien ça, les pots, Radio HDR. Et bien sûr, demain, je vous l'annonce tout de suite, parce que j'aime bien aussi m'auto-teaser, on recevra Amélie Afagar, qui viendra nous parler du bal choral Madame Nomadski. Donc surtout, chers amis HDRiens et HDRiennes, ne manquez pas ça. Et puisqu'on parle des choses à ne pas manquer en ce moment, il se passe des choses sur les hauts, il se passe notamment des choses au centre Mauroy, je vous en parlais tout à l'heure. Il y a une bien curieuse machine, le moulin à ouïr. Ousmane a été vous faire une petite interview sur le sujet. Vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons.
C'est un dispositif interactif sonore. Vous entrez dans un espace, il y a une petite caméra qui est cachée au plafond. Et quand vous entrez dans cet espace, en fait, avec votre corps, vous déclenchez, vous modifiez ou vous fabriquez de la musique. Mais avec votre corps, c'est-à-dire que cette musique n'existe pas sans vous. Et les musiques, c'est de la musique ou des sons. Là, en ce moment, il y a des sons, des mots de poèmes oulipiens, des poèmes à contrainte. Parce qu'ici, il travaille, Julien, avec un atelier de primo-arrivants, qui donc apprennent le français. Donc en fait, il travaille à apprendre le français en travaillant la langue.
Et du coup, ça rentre complètement dans ce format-là.
Voilà.
D'accord.
Donc ben là, il se trouve qu'en fait, ils sont partis en cours.
Alors du coup, concrètement, une personne se met au milieu-là, elle bouge et ça fait de la musique.
Ouais.
Avec des mots, donc en l'occurrence, grenadine,
avec
on
des
a
mots,
entendu.
Voilà, oui. Ouais. Alors je peux vous montrer là, il y a plein de modèles différents. Et ici c'est un modèle qui a été fait donc pour les primo-arrivants. Mmh.
Donc spécifiquement avec ces mots-là.
Voilà.
Tigre, dinosaure, orange, agité, mandarine, rhinocéros, hostie, grenadine, agité, grenadine, dinosaure.
Donc là, je me déplace.
Tigre.
Hop, je sors. Voilà. Je me déplace et je déclenche les bots.
Et donc ça fonctionne, j'imagine, avec ce petit système informatique.
Avec ce gros système informatique, oui.
En fait, le petit scotch blanc là, ça aide pour les capteurs, c'est ça ou...
C'est pas pour le capteur. Le capteur, il y a une caméra qui détermine un état de fond. C'est-à-dire qu'elle photographie ce qui existe quand il ne se passe rien, une image fixe. Quand quelque chose arrive dans cette image fixe, par exemple un corps ou de la lumière, dans ce cas-là, elle détecte un changement d'état. Et avec ce changement d'état et l'analyse informatique de ce changement d'état, elle fabrique de la musique, elle déclenche de la musique.
Mais comment elle est venue cette idée? Parce qu'il faut y penser quand même.
Alors c'est une idée de Denis Charol et Alexis Baskin. Alexis Baskin, il n'est pas rouennais, mais Denis Charol, il est rouennais. Et ils ont développé ça pendant des années à Rouen. C'est une sorte d'invention rouennaise.
Et là, pour l'instant, ça a du succès? Non, ça vient d'arriver. Enfin, je veux dire, ça a commencé à 14h.
On est là, c'est le deuxième jour qu'on est là. Troisième jour avec l'installation. Donc on s'est mis dans le hall, on a tiré des rideaux, on a installé des haut-parleurs, on a installé une moquette, on a installé un portique pour attacher une caméra. Et hier, on a reçu dans le moulin à Ouïr tous les gens qui rentrent dans le centre et qui veulent bien aller essayer cette chose.
Du coup, les gens sont globalement curieux, intimidés, ils ont envie d'y aller.
Est-ce que il y a tous les états. Tous les états. Il y a les gens qui sont curieux, les gens qui ne sont pas curieux, les joueurs qui ont peur de déplacer leur corps dans l'espace. Les gens qui sont surpris de fabriquer leur musique avec de la musique avec leur corps. Quand même. On est sur un module où il y a des voix, c'est des voix de Rouennais. Et elles sont distribuées dans l'espace, exposées dans l'espace en multiples points virtuels. Et en fait, on entre dans l'espace et on va chercher des sons à la main.
Et ça, c'est que des voix humaines, ça.
Denis Charol. Je suis le directeur artistique de Musique à Ouïr. Et là, j'agite les bras, en fait. Je bouge plus. Je bouge juste la main. Je me déplace. Là, typiquement dans ce que je viens de faire, en fait, vraiment, je brasse les sons et j'en fais de la bouillie de sons contemporains.
Pour avoir cette idée de faire cet outil, il faut quand même connaître les possibilités de l'outil informatique. Moi, personnellement, qui n'y connais pas grand-chose, ça ne m'aurait pas forcément survolé l'esprit que ce soit possible.
Bah, c'est-à-dire que dans les musiques à ouïr, il y a plein de gens qui font de la recherche musicale dans plein de genres différents, autour, on va dire, quand même du jazz et de la musique improvisée et de la musique contemporaine. Et ben, après, c'est notre métier d'avoir des idées et de les mettre en œuvre. Donc là, c'était Alexis Baskin, qui est un musicien et développeur informatique, qui a passé des années à développer le logiciel des rêves de Denis Charol.
Ah, c'est un logiciel fait spécifiquement pour le moulin.
Ouais, c'est du développement informatique fait spécialement. Ouais. Ça ne se trouve pas dans le commerce.
On peut
Il n'y a qu'un seul moulin à Ouïr.
Le moulin à Ouïr, on peut le retrouver combien de temps là, au centre Malraux?
Alors, il est là hier, aujourd'hui et demain, vendredi.
Et voilà, oui, le moulin à ouïr, une bien curieuse machine que je vous invite à aller voir, parce que je trouve qu'à la radio, on ne se rend pas forcément compte de la drôle de petite bête que c'est. Donc allez le voir au Centre Malraux, chers auditeurs. Et nous, en attendant, on va s'écouter un peu de musique plus classique avant de passer à une chronique un peu moins classique. Vous connaissez bien la chronique de Mansour. Je vous propose donc de partir avec Chocolate Milk, Action Speaks Louder Than Words. Action speaks louder than words, Chocolate Mix sur le mix des cultures.
De 17h à 18h, c'est le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif.
Et bien sûr, vous l'avez entendu, on retrouve le moulin à Ouïr encore demain, si je ne m'abuse, et aujourd'hui, en tout cas, au centre Malraux, pardon, j'allais encore dire le centre Morois, chers auditeurs. Et s'il y a quelque chose qu'on retrouve aussi régulièrement à notre antenne, c'est Doc Mansour et sa chronique Histoire. Doc Mansour, qu'est-ce qu'on a sous le coude aujourd'hui? J'ai cru comprendre que ça allait être sanglant.
Sanglant, tu sais pas, on va à Londres.
Déjà, Londres, bon, on a dit tout à l'heure Jack l'Éventreur, on se doute que ça va pas être...
Mais si. Donc, Londres, je vais déjà à peu près planter le décor. On est à la fin du 19e siècle. Londres rayonne à travers le monde parce que c'est le plus grand empire colonial à l'époque. Ça, il faut le savoir. En second, arrivée à la France.
Là, c'est Victoria encore à l'époque.
Voilà. Donc, elle vient juste d'être intronisée en plus. Et en fait, Londres est aussi réputée pour être la cité des gentlemen et des gens, on va dire, bien vus. bien distingué, poli et tout ce qu'il faut. Mais ça, on va dire, c'est le côté pétillant de la cité. Parce qu'il y a l'autre côté de la ville, en fait, ça c'est l'ouest, principalement de Londres, et il y a East End, l'autre côté, justement. Et bien, l'autre côté, c'est pas forcément ni les beaux quartiers, ni rien du tout, c'est plutôt tout l'inverse.
Peut-être même les coins les plus glauques du monde à cette époque, Doc Monceau.
Ah oui, quasiment. Certains ont même comparé ça à Calcutta. Hein. Donc les gens étaient très pauvres. Vous pouviez travailler des heures et ne pas avoir assez d'argent pour payer votre nuit. Parce que les propriétaires faisaient payer à la nuit. Donc il fallait gagner son argent très vite. Et parfois, il fallait juste avoir de l'argent pour manger. Le problème, c'est que cette ville, en dehors du clinquant, était devenue aussi une espèce de capitale de la prostitution, mais pas la prostitution professionnalisée. Les femmes qui parfois avaient des enfants et parfois le mari, on ne savait pas trop où il était, s'il était encore vivant, et ben en fait, arrondissaient leur fin de mois en se prostituant.
L'ubérisation de la prostitution, un peu.
Oui, bien avant l'heure. Donc, certains estiment entre 80 000 et 100 000 prostituées, okay, entre les professionnels et les occasionnels, dans Londres à l'époque. Hein. Ce qui représente beaucoup de choses. Et les plus élégantes avaient un parapluie, tout un dispositif. Il faut savoir qu'à l'époque aussi, la police commence plus ou moins, avec des balbutiements, à se perfectionner, commence à être un peu plus scientifique et un peu plus psychologique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. À l'époque, en fait, à Whitechapel principalement, parce que c'est le quartier qui va nous intéresser, qui est un périmètre très restreint, on y dénombrait la présence de 62 bordels.
Oui, une bonne concentration.
Oui, et 233 immeubles, à peu près. Donc, très dense, hein, un quartier très dense avec beaucoup de population, énormément de chômeurs et des gens qui travaillaient occasionnellement. Donc, on va dire que pour l'instant, tout va bien. Mais Whitechapel n'est pas un quartier tranquille parce qu'on peut vous tuer pour une paire de bottes.
Oui, ou une veste.
Donc, à partir de là, la criminalité va très vite. Et à l'époque, il y a un homme qui s'intéresse à ça, le docteur Booth, Charles Booth, qui va établir une cartographie de Londres avec des zones allant du rouge-jaune pour les plus riches, au noir, les quartiers les plus pauvres dont Whitechapel fait partie, où il dira quasiment que ce sont des pervers et des populations semi-criminelles, voire criminelles.
D'accord, à ce moment-là.
Ouais, mais ce monsieur, Charles Booth, on lui doit surtout une fameuse expression, le seuil de pauvreté. C'est lui D'accord. qui le conceptualise à l'époque.
Merci Charlie.
Voilà, c'est lui qui conceptualise ça à la même époque. Et un matin, en fait, un matin. Donc, en fait, c'est le 31 août, qu'on trouve une femme égorgée et éventrée de Martha Tabram. Donc, c'est le 7 août 1888, trouvée comme ça, 37 coups de couteau quand même. Hein.
Mais et c'est pas anodin pour l'époque, quand même. Enfin, même aujourd'hui, je veux dire, c'est pas quelque chose qui était courant à Whitechapel.
Bah, justement, c'est ça qui est. Parce qu'officiellement, c'est la première victime de celui qu'on va appeler Jack l'Éventreur.
D'accord.
Donc, moi, il va se surnommer comme ça. Le problème, c'est qu'il y a trois autres victimes avant. C'est-à-dire le 24-25 février 1890, Annie Milwan, attaquée à coups de couteau, morte de ses blessures. Le 28 mars, attaquée de coups de couteau chez elle. Et elle survit, mais refuse de témoigner. Et le 3 avril, attaquée à coups de couteau, c'est Emma Elizabeth Smith. Elle survivra, mais refuse aussi de témoigner.
Mais comment on peut faire pour lier ces affaires alors que finalement, elles ne ressemblent pas tant que ça à celles dont on parle en premier?
Non, mais la violence des coups et certains policiers à l'époque ont commencé à regarder ce qui s'était passé avant et la violence des coups serait portée de la même façon.
D'accord.
Voilà. Donc, Martha Tabram est officiellement, on va rester sur cette version-là, qui est la véritable première victime de celui qu'on appellera Jack l'Éventreur. Et le plus intéressant, c'est la deuxième victime, le 31 août 1888. Et là, c'est Marie-Anne Nichols, trouvée égorgée, éventrée. Et en fait, tout le monde dit que c'est la première, mais en fait, c'est à peu près la deuxième. Et en fait, il y a des témoins qui ont vu juste le cadavre, mais on ne sait pas trop ce qu'ils ont réellement vu. Et il faut savoir que dans le quartier où elle était, les policiers y passaient assez régulièrement, les bobbies, comme on disait. Et ils y passaient régulièrement, mais en même temps, la rue n'est pas éclairée. Donc, on n'a rien vu.
C'est un peu la naissance de l'éclairage public déjà à l'époque. C'est encore
ça commençait, c'est balbutiement. En même temps, Londres était pestilentielle à l'époque. On avait commencé à construire des égouts. Londres est pourtant a le premier métro dans le monde, mais c'est pas une ville très. C'est plutôt une ville très odorante. Donc après, il y a le 5 septembre, Annie Chapman, trouvée égorgée et éventré cette fois-ci complètement, avec une mise en scène qui est assez curieuse. C'est qu'en fait, on va trouver une partie de ses organes près de son épaule droite et des organes qui ont disparu.
On a une évolution du mode opératoire. Là. Ouais,
et là, des premières lettres commencent à arriver.
Ah.
Alors, on signe, et justement, c'est cette fameuse signature qui apparaît, Jack the Ripper, sur certaines d'entre elles. Mais une autre va attirer l'attention de la police de Scotland Yard, qui est en train en plus de se réformer en simultané. Et ben en fait, on y découvre qu'il y en a une en particulier, où c'est marqué en haut à droite, From Hell, venu de l'enfer.
Voilà qui en dit long.
Ouais, donc ça signifie bien, et il s'excuse en fait de ne pas pouvoir avoir écrit avec le sang de la victime qui avait trop vite séché.
Un mec sympa.
Ouais, il s'excuse. Il est poli. On va dire ça. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a le docteur Bond qui a procédé à l'autopsie, qui va faire des descriptions quand même assez horribles de tout ce qui s'est passé. Mais le docteur Bond a une particularité, il va commencer à faire le portrait du meurtrier.
Ah, c'est les débuts de la criminologie un peu.
Oui, c'est le, en gros, vulgairement, c'est un des tout premiers profilers officiels. Et en fait, il va même plus loin, il va même élaborer un concept qui était quasiment méconnu à l'époque, ou du moins, on n'avait pas encore nommé cette chose-là. Il commence à avoir des criminels pathogènes et surtout, il commence à élaborer une théorie autour du crime sexuel.
Ah oui, aussi, donc la naissance de, vraiment du profiling criminel.
Voilà, donc en fait, voilà, on a un sociologue qui commence à nous dire il y a le seuil de pauvreté, on commence à avoir un premier profiler qui commence à apparaître. En France, c'est pareil, on est en train d'établir les premiers schémas pour... identifier les criminels grâce aux empreintes digitales. En fait, tout est en train de se passer en simultané. Et en fait, Jack l'Éventreur, cette période-là, fait que ça va un petit peu plus s'accélérer. Donc, là, à partir de la deuxième victime, la police va commencer vraiment à s'intéresser à la chose. Et en fait, on va interroger plus de 2000 personnes. 300 vont on va vérifier leurs faits et gestes, leur alibi. Près de 80 vont être réellement arrêtés. Mais ils vont tous être relâchés.
Déjà, ça sent pas bon, là.
Bah non, parce que le problème, c'est qu'on n'arrive pas à prouver quoi que ce soit.
Puis, oui, il n'y a aucun moyen de prouver quoi que ce soit, il n'y a pas de preuves.
Non, et une partie de ceux qui ont été, une grande partie, quasiment 80-90% de ceux qui ont été interrogés, étaient des bouchers ou juste des livreurs.
Oui, parce que moi, j'ai entendu dire qu'il était question, au niveau de ces incisions, ces éventrements, que ce serait quelqu'un qui savait faire ça.
Oui, et en fait, ce qui intrigue surtout la police, c'est même pas ça. Parce que dans certains rapports, on peut les lire sur certains sites, en anglais. Ce qui les intrigue, c'est que les premières victimes, et même ça après, ce sera la continuité, n'ont jamais été volées, n'ont jamais été violées. Donc quel est le mobile de ce meurtrier ?
Néanmoins, les mutilations, elles ont un caractère sexuel, je veux dire, c'est...
Oui, voilà, mais ouais. Le problème, c'est qu'aucune trace de viol et aucune trace de vol. Certaines avaient de l'argent, hein. Pas beaucoup, mais dans un quartier, on vous tue pour juste vous prendre vos bottes ou votre veste.
Ce serait quelqu'un qui ne serait pas de Whitechapel, par exemple.
Ah bah là c'est intriguant parce que la police a beau dire ce qu'elle veut, à chaque fois qu'il y a eu un meurtre et que les policiers étaient pas loin, ils n'ont jamais vu la personne fuir. Mmh. Et les rares qui l'ont vu ont pu décrire un homme entre 1m65, 1m70, assez curieusement, mais on n'arrive pas à le choper.
Je vous affirme que ce n'est pas moi.
Et il y a aussi l'âge des premières victimes et celles suivantes qui ont toujours entre 40 et 49 ans.
Et est-ce que c'est pas le premier tueur en série documenté de l'histoire
Documenté, oui. Voilà. Et donc, Marini, Anne Chappell, en fait, c'est elle qui va faire que les policiers vont de plus en plus s'interroger. Mais en fait, la première lettre qui était arrivée avec le nom de Jack l'Éventreur, avant celle qui était arrivée avec From Hell, et ben on soupçonne que c'est un journaliste qui l'a écrit.
Ouais, pour faire le buzz un peu. Voilà. Donc en fait, on aurait complètement inventé son nom, quoi.
Oui, mais je pense qu'il l'a repris.
D'autant plus que Jack, c'est un peu surnom classique. Ouais.
C'est un diminutif. Et alors, c'est le dimanche 30 septembre où là, l'horreur va monter en puissance. Double meurtre. Elizabeth Stride, du côté de Bernard Street, qui est une rue très, très restreinte. En fait, quelqu'un l'a vu et apparemment, il aurait fui. Et un peu plus loin, Catherine Eddowes. Et alors là... C'est vers 1h du matin, en fait, que ça s'est passé. Là, il s'est donné à cœur joie sur la deuxième victime. Hein.
Oui, il aurait été frustré de ne pas réussir à avoir eu la première. Quoi.
Bah, la première, il n'a pas pu, entre guillemets, et vulgairement, pas fini le travail.
Ouais.
Elle a juste été trouvée égorgée, mais la deuxième, par contre, non seulement d'être avoir été égorgée, cette fois-ci, elle est beaucoup plus mutilée, beaucoup d'organes manquent. Et les rares constituent, quand on lit, ça a été plutôt bien fait.
Mais je suis en train d'y penser, là, ces lettres From Hell, comment on sait que ce n'est pas des faux aussi qui auraient été inventés par
ces
des journalistes?
Ces trois lettres principales, bah, on sait, ouais. C'est quasiment la même écriture, même graphologie.
D'accord, donc au moins on sait que c'est la même personne.
Voilà.
Il n'y a pas des choses jointes avec ou je ne sais pas qui permettraient de savoir.
Si, il y en a une, il y avait quand même un morceau d'organe.
Ah bon, bah voilà, on sait que c'est lui alors.
Voilà. Le problème, c'est qu'après, c'est identifié. Et en même temps, à l'époque, à Londres, on commence à soupçonner, on dit, bon, en fait, c'est pas un Anglais qui a fait ça, c'est les étrangers.
Ah bah toujours.
Oui. Sauf qu'à l'époque, les étrangers, à part les rares Indiens et ceux qui deviendront les Pakistanais aussi, ils n'étaient pas très nombreux et ils n'étaient pas dans ce quartier-là.
Ouais.
Donc, un jour, on va trouver une espèce de graffiti en marquant qui sera écrit, c'est les Juifs et une fois, ils ne seront pas soupçonnés pour rien.
Bon, bah voilà, le usual suspect un peu.
Voilà. Le problème, c'est que la police fait effacer le graffiti bon, en disant ça risque de dégénérer très vite. Donc, en plus, la police est montrée du doigt non seulement par les journalistes, parce qu'en fait, c'est les journalistes qui vont faire. C'est quasiment la naissance du journalisme d'investigation. Ils vont commencer à établir des plans avec des cartes dans les journaux, avec les emplacements des meurtres, les déplacements plus ou moins suspectés de ce fameux Jack. Et. La police commence déjà à soupçonner certaines personnes et commencera à faire une liste des suspects qui pourraient potentiellement être cet homme-là.
Alors que vous nous présentez une liste de suspects la semaine prochaine ou dans deux semaines, Doc ?
Oui, la semaine prochaine, et vous montrerez qu'il y en a deux, trois qui échappent à toute logique.
Ah bon, bah ça va être intéressant. Bon, en tout cas, moi je serai là, chers auditeurs, et je vous invite à être là aussi parce que Doc Manson nous aurait peut-être résolu les meurtres de Whitechapel, les meurtres de Jack l'Éventreur. Et avant de passer à des choses plus joyeuses avec notre invité du jour, Monsieur Varin, je vous propose qu'on passe à de la bonne musique avec The Olympians Midnight Movement.
Thank you.
The Olympians Midnight Movement sur Radio HDR.
Le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif, 99.1 et 102.4.
Et réjouissez-vous, chers auditeurs, puisque notre invité, Monsieur Varin, n'a pas été effrayé par la chronique de Doc Mansour et est toujours parmi nous. Rebonsoir, Monsieur Varin.
Bonsoir.
Alors, vous êtes là pour nous parler un petit peu de la vache rebelle et du premier tremplin des talents inconnus du quartier populaire de l'agglomération rouennaise. Je vous propose de commencer en nous présentant votre structure, pardon, excusez-moi.
C'est une toute petite structure, une association qu'on a créée il y a 3 ans à peu près. On était une dizaine de militants politiques et culturels et on s'est dit qu'il y avait une offre culturelle sur l'agglomération rouennaise qui est, comme partout ailleurs, abondante, avec des salles de spectacle, des écoles de musique, des fanfares, des chorales, des clubs de peinture, etc. Sauf que cette activité-là, fort positive et intéressante et monopolisée par des cadres qui sont actifs ou en retraite. En gros, une classe moyenne intellectuelle, des profs, des instits, et voilà quoi. Et qu'il y a dans la population des gens qui sont majoritaires, qui n'ont pas forcément un très bon souvenir de ce qui s'est passé à l'école pour eux. Et que pour eux, l'école, c'était l'endroit où on devait acquérir de la culture et qu'ils n'en ont pas acquis du tout. Qu'on les a éventuellement relégués dans une filière professionnelle parce qu'ils n'étaient pas capables de causer comme tout le monde. Et ces gens-là, ils ont le même cerveau que tout le monde. Et ils sont capables et ils ont le droit de vivre des émotions artistiques et d'en produire aussi pour les autres. Sauf qu'ils ne savent pas qu'ils en sont capables. On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose et qu'il fallait aller jusqu'à la création d'une salle de spectacle, d'une scène, sur laquelle ces gens-là pourraient apprendre, s'exprimer s'ils ont appris par ailleurs et produire du spectacle. Voilà.
Et du coup, question qui vient comme ça avant d'entrer dans le vif du sujet. Pourquoi la vache rebelle ? Rebelle, j'imagine que je comprends à peu près, mais la vache, c'est pour parler de la Normandie ?
Oui, c'est ça, oui. Parce qu'il faut trouver un nom. Vous savez, quand on cherche un nom, on essaye de trouver quelque chose qui accroche. Et pourquoi pas la vache rebelle ? Ça, rebelle, on comprend bien. La vache, c'est parce qu'on est normand, effectivement. Et puis, tout de suite, on s'est dit que en sous-titre, on mettrait que quand la vache se rebelle, le mouton s'interroge. Et on a trouvé ça rigolo. Et que ça cause bien. Et on l'a gardé. Voilà.
Justement, ce sous-titre, cette devise, ça symbolise un peu une volonté, peut-être, de donner le coup de pied dans les fourmilières, d'être un empêcheur de tourner en rond un peu ?
Oui. Et de révéler des choses qui sont inhérentes à l'ensemble de la société et qui peuvent surgir si on la provoque un peu, quoi.
Ouais. J'ai vu que vous qualifiez vous-même de cabaret nomade. Pourquoi ?
Parce qu'un jour, on espère bien, on aura un local avec une scène, avec un bar pour y faire de la restauration. Et qu'on commence hors mur à déjà faire tout ça. L'année dernière, dans le cadre du Curieux Printemps, on a recruté une trentaine de musiciens des écoles de musique de toute l'agglomération qui ont travaillé en 5 samedis après-midi de répétition avec Laurent Dehors, qui était lui financé par la ville de Rouen, pour leur apprendre à jouer ces morceaux. Et ils l'ont produit en concert sur les quais bas rive gauche le 20 mai dernier, devant quelques centaines de personnes qui passaient par là. Nous, on avait installé une tente à côté avec de la restauration, un bar et deux musiciens qui faisaient l'initiation aux gens qui passaient sur les percussions en particulier.
Cet aspect nomade, c'est une volonté pour avoir un côté esprit libre, rester...
C'est pour commencer à faire les choses avant que d'avoir un local pour le faire. Alors on le fait.
D'accord, du coup, comment ça se passe pour trouver une salle quand on a besoin ponctuellement, trouver un endroit où planter une tente?
Bah, si on en vient au tremplin de cette année, l'association a un de ses sièges à Amfreville-Lamivoie. On a la possibilité d'emprunter, la ville d'Amfreville-Lamivoie nous prête le centre culturel Simone Signoret le 2 juin pour toute la journée. Et on en profite pour y installer un cabaret pour cette journée-là.
Bon bah c'est super, du coup je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet, justement le premier tremplin des talents inconnus des quartiers populaires de l'agglomération rouennaise. J'allais vous demander d'où est né ce projet, mais j'ai l'impression que c'est un peu un projet qui allait de soi avec le concept de la vache rebelle, non ?
Bah oui, avec ce que je viens de vous raconter, ça semblait évident qu'il fallait commencer à le faire parce qu'il y a des talents... ne se sont pas encore exprimés dans l'agglomération et qui ont le droit d'avoir un public. Donc, on a lancé un appel, ça fait un petit bout de temps déjà. On n'a pas tout à fait fini le recrutement, mais on commence à avoir un programme assez fourni. Ouais.
Du coup, comment ça va se passer concrètement? Comment ça se passe? Comment on repère les artistes déjà de base?
Eh ben, on envoie des messages à droite, à gauche. On a quand même des gens qu'on connaît. Et puis, on est allé écouter des chorales. Un adjoint à la culture, Rémi Mourdel, à Amfreville-Lamivoie, nous a signalé que à son école de musique d'Amfreville, il y avait un jeune de 15 ans et demi qui a appris à jouer du piano tout seul à l'oreille, et puis il joue du Chopin sans avoir, avant même que d'avoir commencé à faire du solfège. Et puis il est venu, on l'a écouté, et puis il va ouvrir la journée.
Et moi, je vous entends parler, tout de suite, ça me saute à l'esprit. J'ai vu sur votre site que vous proposiez des films plutôt marqués politiquement. Vous avez vous-même prononcé le mot politique tout à l'heure.
Ouais.
Là, on a quand même l'impression qu'il y a une volonté aussi de passer outre une certaine reproduction des inégalités sociales où certains peuvent être artistes et d'autres, même si c'est des génies, comme ils ne sont pas repérés, ils passeront leur vie sans pouvoir exploiter leur talent.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a quand même une volonté philosophique ou politique de lutter contre ça dans la vache rebelle?
Ah bah, oui, on ne fait que ça, de lutter contre les inégalités culturelles. Les militants politiques luttent beaucoup contre les inégalités économiques, sociales. Nous, on se dit que les inégalités culturelles, c'est au moins aussi important que tout le reste, quoi.
Oui, oui, ça, je suis tout à fait d'accord à titre personnel. Et du coup, puisqu'on parle de ça, j'ai vu également que vous faisiez l'assiette rebelle. Et j'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que vous voulez bien nous en parler?
Ah, ça, c'est un projet qui n'a pas abouti. Ah. Dans la culture, et surtout en France, il y a la gastronomie. Et il est vrai que le petit peuple, si on parle comme au 19e, il a le droit de prendre des kilos en bouffant au McDo. Les gens qui ont une certaine culture et des moyens peuvent se permettre d'aller au Biocoop pour acheter des légumes deux fois plus chers qu'ailleurs. Et y a un problème aussi, et il n'y a pas de raison qu'on ne s'attaque pas à ça. Dans la mesure où on a envie de devenir un cabaret, c'est-à-dire un endroit où on mange et où on boit, on a envie de faire, d'agir aussi sur ce domaine de la gastronomie. Et d'ailleurs, on a une vente mensuelle de produits gastronomiques de la vache rebelle et des produits d'un éleveur de Grémonville, près de Yvetot, près de Douteville, la ferme de Beaumont. Et on vend, sans faire de marge dessus d'ailleurs, une viande de blonde d'Aquitaine et du veau nourri au lait des vaches de la ferme. Et ça coûte 30% moins cher que chez un boucher normal.
Bon, bah, je vous propose, moi, avant de reprendre notre conversation sur cette très intéressante structure qu'est la vache rebelle, le cabaret nomade, et surtout de retourner dans le vif du sujet avec le premier tremplin des talents inconnus, de s'écouter un petit peu de musique de talents pas inconnus pour le coup. Je vous propose d'écouter Gérald Levert avec Danse RNS. Turn a gold to platinum. Woo!
like that. Go old school. Turn the bass up. String. People dancing, wall to wall, ain't no stopping till last call. Gone by the bump, so come on y'all and dance, yeah. Ain't no restrictions, ain't no rules, and you can't deny this groove, no. So get up on the floor.
Gerald Levert, I want you to dance, dance sur Radio HDR.
Le Blabla Mix, 99.1 et 102.4 FM.
Et nous sommes de retour avec Monsieur Varin qui nous parle du premier tremplin des talents inconnus des quartiers populaires de l'agglomération rouennaise. Et j'avais envie de vous poser une question, Monsieur Varin, puisque c'est également aussi mon rôle ici dans cette émission, sinon
bah,
ce serait
prie.
Un peu long. du coup, concrètement, enfin je veux dire, est-ce que ce tremplin permet à des jeunes artistes de se présenter ponctuellement ou est-ce que vous avez une volonté de pérenniser un petit peu, comment dire, cette chance que vous leur donnez ?
On va inviter des programmateurs de l'agglomération. Ce n'est pas sûr qu'ils soient très, très nombreux. Et puis, mais on verra bien. Et puis... On a appelé ça un premier tremplin, ce qui veut dire qu'il pourrait y en avoir un deuxième, un troisième, un quatrième. On ne sait pas si ce sera annuel ou biannuel, mais c'est évident que ceux qu'on va présenter cette année, ils ne sont pas les seuls, quoi, et qu'ils peuvent amorcer aussi un mouvement de repérage qui se ferait toute l'année et qui permettrait d'enrichir encore l'événement les années suivantes.
Bon, est-ce que là, du coup, vous commencez à disposer d'un panel d'artistes qui vous convient, ou est-ce que vous avez toujours besoin de plus et plus de jeunes artistes, ou jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, pour ce tremplin ?
Bah, je vous dis, pour l'instant, on a donc le Clément Colombel, le jeune pianiste dont je vous parlais tout à l'heure. On a un couple qui s'appelle La Belle et la Blette et qui fait de la chanson française plutôt traditionnelle. On a une chorale de gens, je suis allé les écouter hier soir en répétition et j'y ai trouvé des gens que je connaissais déjà, qui s'appelle la chorale de La Canaille. Et puis, on a aussi des jeunes, ils sont adultes, hein, mais ils font une musique populaire brésilienne, ils s'appellent Bossa Finade, ils sont 3, 4 ou 5, ça dépend des jours, et ils commencent à avoir un succès important. Ça vaut vraiment le coup de venir les écouter. Ils vont pas se mettre sur scène, eux, ils vont se mettre autour de la table parce que c'est une musique qui se joue dans les bars, les troquets là-bas. Et du samba, de la bossa. Et ils vont faire ça en fin d'après-midi. Et puis, dans le hall et sur les cimaises, on va avoir un aquarelliste. On va distribuer un papier sur le marché de l'art, parce que c'est absolument impossible quand on a des petits moyens d'acheter un tableau de quelqu'un qui a beaucoup de talent, parce que c'est absolument impossible et c'est pas normal. Alors que la musique se diffuse facilement, se duplique facilement. Et donc, on va, l'aquarelliste en question, il va prendre les inscriptions et pour 10 euros, il va reproduire ses tableaux sur du papier de très bonne qualité, parce qu'il est graphiste par ailleurs, pour que les gens puissent en disposer tout de même.
Ben, mais, c'est une super idée, oui.
Mais, et c'est bien dans l'esprit. Pareil avec un photographe qui va présenter des photos et qui va proposer un tirage de ses photos. Ça, c'est déjà plus facile. On va avoir un autre photographe encore. Et puis, une sculpteuse ou sculptrice, je ne sais pas comment
sculptrice.
On dit. Sculptrice, bon d'accord. Ouais. De Tourville-la-Rivière, qui fait des très, très, très belles choses dans sa maison toute seule et qui n'a jamais l'occasion de les montrer. Alors voilà, c'est une occasion. Et puis, il y a une association, des Hauts-de-Rouen d'ailleurs, qui s'appelle Au Fil Conducteur. Et qui fait de la couture, que vous connaissez sans doute.
Qu'on connaît.
Va venir exposer des costumes et qui va nous faire un défilé de mode au milieu d'après-midi.
Mais là, je trouve que c'est très intéressant ce que vous nous dites, parce qu'on parlait musique, on avait des artistes de tous les types, pianistes, chanteurs, tout ça. Ouais. Et là, d'un seul coup, aquarelliste, photographe, ouais. Tout ça. Vous êtes ouvert à tous les types d'art
Eh bah oui, bah oui. Et on espère bien avoir du hip-hop, puis on cherche des clowns aussi éventuellement, des prestidigitateurs, tous ceux qui ont quelque chose à dire et qui ont des choses à montrer qui sont spectaculaires, je ne vois pas pourquoi on ne les montrerait pas.
Bah oui, clairement, je suis d'accord. Dans l'idéal, comment vous voyez l'avenir ? Vous voyez un deuxième, troisième tremplin, peut-être vous sédentariser, développer d'autres projets peut-être ?
Bah oui, tout à fait. Je vous embauche dans l'association pour faire la prospective.
Eh bah, très très bien. Du coup, moi j'ai envie de vous demander, histoire d'être bien sûr de notre coup avant de se séparer, comment on participe à ce tremplin. Rappelez-le-nous, rappelez-nous comment on peut vous contacter, rappelez-nous où
on peut
si
vous avez des copains qui ont monté un orchestre et qui fait de la très bonne musique, si vous avez un ami qui connaît des tours de magie, si vous connaissez des clowns, des gens qui sont dans un atelier de hip-hop et qui ont envie de montrer là où ils en sont, il suffit d'envoyer un mail à contact@lavacherebelle.org. contact@lavacherebelle.org, c'est simple. Je viens vous voir ou on vient vous voir et puis voilà. On est jusqu'au 9 mai, on doit pouvoir prendre des inscriptions encore.
Ouais.
Ce qui fait que la journée commencerait vers midi et puis se terminera vers 18h au Centre d'Action Culturelle d'Amfreville-la-Mivoie, donc Simone Signoret, c'est dans le centre-ville. Il suffit d'aller dans le centre et de tourner à droite au bar tabac PMU qu'il y a là, et puis on y est, quoi.
Et rappelez-nous comment retrouver aussi tous ces jeunes artistes, si comme on n'a pas un grand talent artistique, comment on va retrouver tout ce qu'ils vont produire ?
Ah bah ça, on va pas pouvoir enregistrer ni. Mais vous pouvez, si vous voulez, vous installer votre studio ce jour-là au CAC dans Fortville-la-Mivoie, et puis vous faites une émission spéciale. On sera d'accord.
On va voir ça avec les gens compétents. Bon, en attendant, merci d'être venu nous voir. Monsieur Varin, je ne manquerai pas de vous recontacter, on ne manquera pas de reparler surtout de La Vache Rebelle. Et d'ici là, mes chers amis, il va se passer plein de choses. Puisque après ces deux semaines de longues vacances, je crois que je n'ai pas oublié ce qui passait après nous. Il me semble que ce sera Campus Mag de 18h à 19h sur le 89.1 Radio HDR, la rediff de Campus Mag, donc avec l'inénarrable Loïc. Et il me semble que chez nos amis de Principe Actif, dès 20h, vous retrouverez la redoutable émission Hit the Road Together. Je crois que tout est dit, mes chers amis. Si vous voulez, bien sûr, réécouter cette émission, vous pourrez la réécouter en podcast sur radiohdr.net, si je ne dis pas de bêtises. C'est dur, la reprise, les amis. Et chez nos amis de Principe Actif, n'hésitez pas à écouter le 102.4 si vous êtes à Évreux et le 95.9 si vous êtes dans le sud de l'Eure, à Breteuil, Verneuil et Conchanouge, je crois. J'espère que Marie ne me désavouera pas. Et bien sûr, Radio HDR, vous connaissez, c'est le 99.1. Tout va bien, on est bien et on va se dire au revoir, chers amis HDRiens. Bisous et à demain.